Radar.
Actu culturel.
Plus qu'une émission, une transmission. Eh bien, salut à tous et à toutes, on se retrouve pour cette troisième émission de Radar, votre émission culturelle, toujours en compagnie de Lucas. Bonjour Lucas.
Bonjour Lucas, comment vas-tu Lucas ?
Eh bien écoute, ça va très bien, et toi Lucas ?
Eh bien ça va plutôt bien, tout va très bien.
Ouais ?
Ouais.
Bon début d'année ?
Alors un bon début d'année, effectivement, et moi je voulais savoir... Comment se sont passés tes examens? Parce qu'on est quand même sur une radio étudiante, on a envie un peu de...
Ouais, t'as envie de mettre la mauvaise humeur,
c'est ça?
Exactement, ouais, t'as envie
oui,
de...
c'est
ouais.
Ça.
Ouais, ok.
Ouais, ouais.
Bien écoute, mes examens se sont passés, j'ai envie de dire, et j'en resterai là. Et toi, Lucas?
Bah écoute, ça s'est passé, point. C'est du passé.
Exactement.
Voilà,
j'aime beaucoup ta vision des choses.
C'est du passé. Maintenant, oui. Il faut regarder vers l'avenir.
Vers l'avenir. Et vers les bonnes résolutions aussi. Hein. Est-ce que tu as respecté tes bonnes résolutions ? Non ?
Non, voilà.
Dommage.
Ouais, terrible.
Eh bien, moi, je me remets au sport.
C'est
enfin,
bien.
Ben, finalement, est-ce que j'ai déjà arrêté ? Non. Mais voilà, je vais essayer de forcer la chose.
Très bien.
Voilà.
Très bien, très bien.
De quoi on va parler aujourd'hui, Lucas ?
Eh bien, aujourd'hui, Lucas, nous allons parler, ben, justement, je te disais que... Les examens, c'était du passé, qu'il fallait regarder vers l'avenir. On va parler d'un sujet qui est un peu un enjeu de l'avenir. Mm-hmm. On va parler de l'espace.
D'accord.
C'est quand même un sujet, je pense que dès que tu entends le mot espace...
Territorial.
Espace, oui, territorial, évidemment. Hein.
C'est un sujet vaste.
C'est un sujet bien vaste, effectivement. Et oui, parce qu'aujourd'hui, nous allons un peu approcher les étoiles... voyager comme ça, je me rappelle surtout quand je dis espace, le début du générique de Star Trek avec la voix du doubleur de William Shatner qui dit espace. Et là, vous avez le jingle, c'est quand même formidable.
C'est beau.
Voilà, c'est beau parce que l'espace passionne les foules depuis très longtemps.
C'est vrai. Moi, ouais. Oui, clairement. Ouais. Bon, moi, ça m'a jamais trop passionné, mais non, j'ai pas vraiment.
Ah ouais ?
Non.
Tu n'aimes pas tout ce qui est spatial ?
C'est-à-dire que oui, c'est joli, mais voilà, ça s'arrête là. Moi, j'ai toujours été très très mauvais dans toutes les matières scientifiques, mais... donc je pense que ça ne m'a pas vraiment poussé vers la chose.
Non mais t'inquiète, moi non plus, hein. C'est bien pour ça que j'anime une chronique littéraire et non scientifique.
Exactement.
Ouais, quand même, mais bon, il faut quand même reconnaître que l'espace, c'est un endroit vertigineux.
C'est vrai. Non, c'est vrai.
Qui a toujours eu le don de passionner les hommes en suscitant chez eux des émotions variées. La peur de l'inconnu, la fascination pour les astres, l'ambition d'aller peupler une nouvelle planète, la curiosité, etc. Bref, tourner le regard vers le ciel, c'est quand même une chose propre à l'humanité depuis la nuit des temps.
C'est vrai.
Si c'est pas pour admirer les étoiles, c'est peut-être aussi pour regarder la météo qu'il fait.
C'est vrai. Voilà. Oui, non, totalement, totalement. Mais y a de nombreux projets qui sont qui veulent être mis en place, qui se veulent, révolutionnaires, et qui seraient tournés vers la météo aussi, notamment. Bon, on va pas non plus en arriver au stade de se dire bientôt on va contrôler la météo. N'empêche que ça serait pas mal.
Oui, eh bien, ça me rappelle un film que j'avais été voir qui s'appelle Geostorm.
Exactement. Oh, et oui. Tu vois, c'est parfait parce que c'est exactement le sujet dont je voulais parler.
Ah, oui.
C'est-à-dire que le film est quand même très très mauvais.
Ah, il est très mauvais.
Il est
vraiment
très mauvais.
Très, très mauvais.
Pourtant, Gérard Butler, on l'aime beaucoup, hein, mais là, il a pas fait fort.
Non, mais c'était vraiment un très mauvais film. Mais tu vois, justement, je trouve que c'est bien dans la thématique de cette émission, puisque finalement, l'espace, que ce soit dans la littérature ou dans le cinéma, sert le plus souvent de toile de fond.
Exactement,
pour des auteurs,
ouais.
Et des réalisateurs qui voient le moyen d'anticiper l'avenir, de donner un cadre fantaisiste à leurs histoires. Ou juste de partager avec leurs lecteurs le rêve de s'arracher de la planète Terre,
si au final... Mais totalement.
Mais après, tu sais, moi, que tu me dises que tu ne sois pas trop passionné par l'espace, moi, je trouve que c'est une bonne chose, parce qu'il nous faut quand même des gens terre-à-terre dans notre société.
Oui. Je ne sais pas comment je dois le prendre, ça, mais bon, écoute,
il faut des gens terre-à-terre, c'est important.
Exactement. Mais tu vois, tu me disais... Je te dis, je te coupe parce que c'est très important. Tu me disais, voilà, les réalisateurs, on a tendance à voir un petit peu l'avenir et après shot ce qui va pouvoir peut-être se passer dans l'avenir. Regarde E.T. Regarde, E.T. est arrivé sur la Terre. Tu es présent ici aujourd'hui.
Ah, merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir en tout cas. de se faire clasher en direct. C'est, voilà. C'est vraiment
mais très sympa. Mais c'est cadeau, ouais, c'est le cadeau de Noël, tu vois.
T'inquiète pas, je vais pas te rater. Il est quasiment, en fait, impossible d'évoquer le sujet quand même de l'espace sans faire un rapport à la science hein, qui nous a complètement mise de côté pendant notre scolarité, je crois, Lucas, comme on a pu le constater il y a quelques minutes.
J'étais bon en SVT, mais le reste, ça s'arrête là, quoi, voilà.
Je n'en doute pas. Mais bon, voilà, aujourd'hui, pour Radar, pour cette émission consacrée à l'espace, on va vous présenter des œuvres littéraires et cinématographiques en lien avec le sujet.
C'est ça.
Et veux-tu que je commence ou que tu commences?
Eh bien, franchement, vas-y.
Très bien. Eh bien, Lucas, on va commencer notre aventure spatiale au milieu du... Enfin, deuxième moitié du 19e siècle avec un auteur dont j'ai déjà pu parler l'an dernier pour la première saison de Radar qui se nomme Verne et Jules de son prénom.
Exactement.
Et pour le premier ouvrage, en fait, il me semble essentiel de débuter par présenter brièvement ce diptyque pionnier de la littérature qui regroupe deux ouvrages, De la Terre à la Lune, sorti en 1865, et Autour de la Lune, paru en 1869. Où l'auteur en fait envisage déjà pour son époque le départ de trois Américains, du nom de Michel Arden, Impey Barbicane et le capitaine Nicholl, en direction de la Lune.
Quel bel accent.
Et ouais, non mais t'as vu ça? Non mais c'est incroyable, vraiment, je m'impressionne moi-même.
Je suis impressionné aussi.
Il faut quand même noter que ce qui est le plus impressionnant, c'est que Jules Verne avait déjà prévu que les premiers à aller vers la Lune, ça soit trois Américains. C'est quand même exceptionnel.
C'est vrai.
Et oui. Mais bon, j'oserais pas vraiment m'avancer pour dire que c'est une œuvre pionnière de la science-fiction, hein, parce que ça reste assez collé à la réalité, puisque l'histoire se déroule dans un contexte d'après-guerre de sécession. Et en plus de ça, bon, les progrès de la technique sont un peu rudimentaires, en fait. Fusée qui est utilisée, en fait, c'est un feu d'artifice pour y aller. Mais ça... Cette œuvre, quand même, par rapport à l'espace, ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait ressurgir le côté curieux des lecteurs du 19e siècle, car les héros se demandent si la face cachée n'est pas le lieu propice à la fondation de villes extraterrestres inconnues de l'homme. Parce que vraiment, c'est l'espace, justement, c'est un espace qu'on ne connaît pas.
Exactement.
Et oui.
Et ça, c'est important.
Et il est bien mal connu à l'époque, et d'autres auteurs vont se faire le plaisir de jouer sur les émotions de leur public au sujet de l'espace en leur faisant imaginer des événements extraordinaires. Mais je crois... avant de continuer à présenter des œuvres littéraires, que Lucas, eh bien toi, dans le cinéma, Jules Verne a eu un peu son empreinte.
Oui, effectivement, parce que dans le cinéma, tout commence en 1903, avec Le Voyage dans la Lune. Tu sais de qui est cette œuvre, Lucas?
Alors, je crois que... Eh bien, il s'appelle Georges.
Oui, de son prénom.
Georges de son prénom.
Et de son nom.
Si ce n'est pas Georges Abitbol, je dirais que c'est Georges Méliès, peut-être ?
Exactement, c'est ça. C'est bien Georges Méliès. Donc peut-être qu'à l'oral, cette œuvre vous est totalement étrangère, mais avec ses quelques apports sur ce court-métrage de 14 minutes, je pense que vous comprendrez très vite. En effet, nous pouvons observer plusieurs hommes monter dans un canon et heurter la Lune. Ils se rencontrent alors des extraterrestres, les Sélénites. Ce film représente une véritable évolution, même une révolution dans le milieu, car il investit une fortune pour l'époque et met en œuvre de nouvelles techniques, notamment le coloriage des copies de son film directement à la main. Est-ce que c'est pas extraordinaire ça?
Ouais, c'est fou.
Il aimait s'embêter, Georges Méliès. Ouais. Et il a également été influencé par Jules Verne avec son roman De la Terre à la Lune. On peut se le dire clairement, Le Voyage dans la Lune est l'une des pierres angulaires de l'histoire du 7e art. Donc effectivement, il y a bien un lien avec Jules Verne.
Mais d'ailleurs, est-ce que je peux me permettre une petite anecdote?
Vas-y.
À ce sujet. Tu es peut-être au courant, comme tout le monde le sait évidemment, qu'il y a des mers sur la Lune. Et on ne sait même pas pourquoi on appelle ça des mers en fait, parce qu'on ne sait même pas s'il y a de l'eau. Mais il faut savoir qu'il y a une mer sur la Lune qui s'appelle Saint-Georges. Sais-tu pourquoi elle s'appelle Saint-Georges?
Dis-moi.
Eh bien parce
peut-être
que...
peut-être pour Georges Méliès, je ne sais pas.
Eh bien pas
ça
du
serait...
tout.
Non, mais pas c'est... du tout, mais ça c'est... serait dommage, mais c'est pas mal.
Mais c'est un sacré hasard.
Ouais.
Parce que, en fait, dans le roman de Jules Verne, les astronautes, les cosmonautes qui partent en mission vers la Lune, emportent avec eux une bouteille de Nuit Saint-Georges, qui est un vin de Bourgogne, hein, un grand cru. Et en fait, au moment de la mission, je crois que c'est Apollo 8, il me semble, que les astronautes américains décident en fait de la renommer Saint-Georges, voilà, en l'honneur de l'œuvre de Jules Verne. C'est quand même une belle petite une petite patte sympa.
C'est pas mal,
c'est,
ouais.
C'est cool. Ils sont sympas, les Américains.
C'est vrai qu'ils sont gentils.
Ils sont gentils.
Ils sont très gentils.
Ils sont très gentils.
Et ils sont très héroïques aussi.
Ouais.
Tu sais que tu sais à quoi ça me fait penser ?
Non.
Quand on parle d'Américains, on parle d'un film en général qui est, on va dire, quand même culte. Dans le milieu du cinéma et qui justement met ces personnages, ces Américains en avant comme des héros. Vois-tu de quel film je veux parler ?
Oh, tu sais, il y en a comme...
Il y en a tellement des cultes, ouais, j'ai envie de te dire. Mais bon, voilà, en fait, c'est parce qu'on en avait parlé, mais il y a Bruce Willis dedans.
Ah, eh bien, je pense que ça doit être le sixième élément.
Oui, ok.
Non, le cinquième élément. C'est ça, le cinquième élément.
Le cinquième élément.
Non, mais plus sérieusement, je pense que ça doit être Armageddon.
Armageddon. Effectivement, parce que je suis venu à la conclusion que, de base, on peut se dire, c'est quand même une vieille œuvre. Et bon, c'est quand même très gros. C'est très grossier comme film. Je veux dire, ça fait pas dans les détails. Ça va faire péter, on va dire, un astéroïde avec une charge nucléaire. Et ça, c'est quand même très impressionnant. Mais il faut savoir qu'en 2022, il y a eu le formidable impact de la sonde DART de la NASA sur l'astéroïde Dimorphos afin de dévier sa route. Et alors, c'est quand même un succès assez prometteur en cas de risque d'impact de la Terre par un astéroïde destructeur, tout simplement. Et cela a notamment inspiré la Chine et l'Europe. Et à partir de cette idée-là, tu étais déjà au courant de cette mission-là ?
Non, pour le coup, non.
Eh bien, c'est quand même drôlement intéressant, je trouve.
Ouais.
C'est sympa.
En fait, c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment la mission qui répond à tous les questionnements humains, en mode, est-ce qu'on va finir comme les dinosaures ?
Ouais.
Et finalement, elle est passée un peu inaperçue, je trouve.
On peut se dire, ouais, qu'on est peut-être plus évolué que des dinosaures.
Ouais, c'est vrai.
C'est vrai.
Bah, c'est pas eux qui ont envoyé Bruce Willis pour aller détruire un astéroïde.
C'est sûr. Ouais. S'il y avait eu du cinéma, ça aurait quand même été épique.
Ouais, oui.
Mais j'ai envie de te dire que c'est presque Armageddon, finalement, pour faire le lien. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Armageddon, c'est quoi ? C'est l'histoire d'un astéroïde qui se dirige vers la Terre à la vitesse de 35 000 km/h. Ce qui est assez rapide quand même, mais bon, pas assez rapide pour Bruce Willis. Et je vais te dire, donc Bruce Willis, qui s'appelle Harry Stamper, il est grand spécialiste du forage pétrolier, et il est recruté par le directeur de la NASA pour tenter de le détruire. Lui et son équipe de têtes brûlées devront alors se poser sur l'astéroïde et placer en son cœur une charge nucléaire. On va pas se le cacher, Armageddon, c'est l'Amérique tout crachée, avec des héros américains qui avancent dans la lumière du soleil, cheveux au vent, par pauvre Bruce Willis, la musique qui nous met dans l'ambiance, le cinéma américain que l'on aime finalement, avec des punchlines à gogo, des dialogues creux et sans intérêt, des incohérences magistrales et un scénario catastrophe qui met en lumière l'héroïsme américain. Et ça, c'est beau. Mais plus précisément, cet héroïsme américain, il est incarné par Bruce Willis. Et on ne peut pas vraiment s'étonner de la grossièreté du film, de ce côté grandiloquent, puisque qui est le réalisateur, Lucas ?
Eh bien, j'allais te le dire parce que du peu de mes connaissances cinématographiques, je sais que le réalisateur de Armageddon est le fameux B. Michel de son prénom, Michel B.
Michel B.
Eh oui, Michel B.
Oui,
eh
oui. Eh oui. Michel B. Michel et donc, B. Michel B, finalement, il a réussi à nous pondre vraiment un chef-d'œuvre nanardesque absolument lunaire,
mais c'est
j'ai envie de te dire.
Oui, c'est parfaitement en lien avec le sujet, en plus.
Et c'est ça. Mais le nanar, il ne faut pas oublier que le nanar est différent du navet. Le nanar est distrayant, il est drôle, alors que le navet est une grosse daube.
Ouais.
Et ça, il faut le dire.
Ça c'est important, et je me permets juste de rebondir là-dessus, parce qu'il faut savoir que j'aime quand même assez bien, dans le peu de films que je regarde, regarder des nanars. Je
trouve que c'est
très amusant.
c'est sympa, c'est amusant.
C'est,
tu passes,
c'est très amusant.
Tu passes un bon moment, voilà. Ça dépend quand même.
Ouais. Après, voilà.
Mais il y a vraiment un côté distrayant.
Oui.
Et j'ai envie de te dire, le nanar, il est quand même indissociable de l'histoire du cinéma. S'il n'existait pas, il n'y aurait pas de chef-d'œuvre. Et comme disait le Guépard de Visconti, c'est de cette ombre que naît cette lumière. Le chef-d'œuvre est formidable, mais souvent, il est emmerdant. Tandis que le nanar est toujours distrayant. Et plus il est mauvais, plus il est bon.
Ah, mais c'est fou parce que en plus de ça, c'est vrai, c'est vrai. Mais quel homme.
C'est vrai, c'est vrai.
C'est vraiment un. C'est vraiment des mots très sages d'un homme très sage, comme diraient les Américains. Vraiment.
Et tu veux avoir une petite anecdote ?
Vas-y, dis-moi.
Bruce Willis, lui, il n'est pas du tout sage.
Oh, ça.
Bon.
Ouais. Maintenant, on est sûr qu'il se tait. Et qu'on ne l'entend plus.
Et t'as toujours un mot gentil, en fait, pour Bruce Willis.
Oui, c'est vrai.
En fait, pour tout le monde, j'ai envie de te dire.
Oui, c'est vrai.
Mais alors...
Notamment pour E.T.
Ouais, pas mal, pas mal. Celle-là, ok. Donc, Bruce Willis, sur le tournage, a exigé d'avoir une salle de muscu, tu vois, intégrée dans son contrat, rien que pour lui. Une salle qui restait inutilisée totalement. Est totalement inutilisée.
Ah ouais.
Donc voilà, Bruce Willis n'a pas utilisé sa salle de muscu. Bon, après, voilà, Bruce Willis.
C'est Bruce Willis.
C'était un caprice, le caprice de Bruce Willis.
Oh, c'est beau, ça rime, c'est magnifique.
Ça rime, c'est beau, c'est tu magnifique. Vois. Et donc voilà, d'ailleurs, il a tourné Armageddon tout simplement parce qu'il avait des dettes.
Oh oui, bah j'imagine.
J'aime bien casser les rêves des gens, voilà.
Mais ça ne m'étonne pas. Hein. Je pense que la plupart, maintenant, le font également pour ça.
C'est vrai.
Ouais, ouais, mais... Dis-moi, Lucas,
oui.
Juste, est-ce que tu affectionnes la Scientologie ? Est-ce que tu connais l'église de Scientologie ?
Oui, je connais surtout Tom Cruise,
Fort
qui est l'un des grands hommes.
Ah oui, ben oui.
Et qui s'est ruiné à cause de ça. Et d'ailleurs, qui a tourné Top Gun Maverick justement pour pouvoir investir dans la Scientologie.
C'est ça, tout est une question d'argent, d'investissement, de placement au final à Hollywood. Et est-ce qu'il y a un film qui t'a marqué avec Tom Cruise ?
Tom Cruise, ouais.
Ouais, Tom Cruise, Tom Cruise, voilà. Est-ce qu'il y a un film qui t'a marqué avec lui ? Avec des extraterrestres
Franchement, il y en a tellement qui m'ont marqué de Tom Cruise. Pas du tout. Pas du tout. Non, parce qu'en fait, j'affectionne bien Tom Cruise. Hein, je l'affectionne, cet homme-là. Mais on va dire qu'il a tendance à faire quand même juste des gros blockbusters qui finalement n'ont pas grand intérêt. Par contre, je sais que Steven Spielberg a tourné un film qui s'appelle La Guerre des Mondes.
Ah.
Et je sais que Tom Cruise est dans le film. Enfin, je sais.
Eh bien,
je l'ai vu également.
Eh bien, figure-toi que moi aussi, je vais te parler de La Guerre des Mondes.
C'est bien.
Mais qui est l'auteur de La Guerre des Mondes ? Eh bien, il s'appelle Wells. Et pas Orson Welles, comme dans Citizen Kane.
C'est ça.
Mais H.G. Wells. C'est un écrivain britannique. Et je pense que c'est impossible de ne pas évoquer le sujet de l'espace sans parler de son œuvre. Parce que, bon, de toute façon, nos auditeurs vont quand même se rendre compte qu'on parle quand même de classiques, généralement. Et, La Guerre des Mondes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'idée que des populations extraterrestres puissent un jour rentrer en contact avec l'humanité en ayant traversé des millions, voire des milliards de kilomètres à travers l'espace. Et, ça relève de la fantaisie.
Oui, totalement. Hein.
Et on est sur un autre aspect de l'espace, parce que, l'œuvre paraît quand même en 1898.
Oui.
H.G. Wells est quand même pas mal inspiré des œuvres de Jules Verne, et c'est quand même un père de la science-fiction.
Oui, ça c'est...
C'est quand même un papa de la science-fiction, avec, par exemple, La Machine à voyager dans le temps, etc., L'île du docteur Moreau, bref, c'est quand même quelqu'un qui pèse dans le game.
J'ai envie de dire que c'est carrément un révolutionnaire.
C'est un révolutionnaire.
C'est un révolutionnaire.
Un grand révolutionnaire, ce H.G. Wells.
Je sais pas s'il avait une barbe, mais en tout cas, c'est un sacré révolutionnaire.
Mais figure-toi qu'il avait une moustache. Eh oui, parce que les hommes à moustache sont voués à marquer l'histoire de leur moustache.
Oui.
Et justement, je vais parler un peu de La Guerre des Mondes, parce que ces populations extraterrestres, elles montrent le côté hostile de l'espace. Elles montrent qu'à l'époque, l'espace, on ne sait pas ce que c'est. Ça se trouve, les gens sont méchants. On pensait déjà qu'il y avait la vie. On pensait quand même qu'il y avait déjà la vie extraterrestre, peut-être.
Oui, c'est vrai. Totalement.
Et ben, en fait, je pense que la guerre des mondes, les gens retiennent surtout l'année 1938, parce que c'est à cette période que H.G. Wells défrait la chronique. Mm-hmm. Parce que, imaginons, il arrive à Radio Campus et il apprend à tout le monde qu'une population extraterrestre hostile est en train d'envahir la Terre. Mm-hmm. Et que, bon, eh ben, dans La guerre des mondes, dans son ouvrage, il s'attaque d'abord à Londres. Et je vais quand même te citer un petit passage qui montre bien que, eh ben, il avait quand même une plume assez puissante. Parce que imagine que tu entends à la radio un homme te dire « Par-delà le gouffre de l'espace, des esprits qui sont à nos esprits, ce que les nôtres sont à ceux des bêtes qui périssent, des intellects vastes, calmes et impitoyables, considérez cette terre avec des yeux envieux, dressez lentement et sûrement leur plan pour la conquête de notre monde. » Eh ben, figure-toi quand même que ça a eu un grand succès, au point que ça a quand même angoissé beaucoup d'auditeurs, hein, des milliers, voire des millions. Et bon, je pense que ce qui est aussi intéressant, c'est de savoir que, tu dois t'en douter, Lucas, mais ces visiteurs venus d'ailleurs, ben, ils arrivent, ils attaquent Londres depuis le ciel, en 1938, et je trouve que c'est un beau récit de... Comment dire ? Il prévoit bien l'avenir quand même, ce H.G. Wells, parce que c'est quand même arrivé. Hein,
Il est très pessimiste après, mais tu vois, ça m'étonne pas plus que ça, parce que si tu regardes, on parlait de Georges Méliès, Georges Méliès, il est assez pessimiste aussi.
C'est vrai.
Parce que dans ce court-métrage, déjà, il se crache sur la Lune. Voilà, il y a un petit peu un côté dramatique avec cette espèce de canon, parce qu'ils voyaient ça comme un canon à l'époque, et ils se font chasser par des sélénites, par des aliens.
Ouais. Non, mais c'est
il y a ce côté pessimiste. On a peur de l'inconnu, et on se dit à tout moment on peut être soumis à une population extraterrestre. Pourquoi
pas ? C'est ça qui est impressionnant. Parce qu'en plus de ça, H.G. Wells, il défrait la chronique en 1938, avec une attaque sur Londres parvenant du ciel. Et bah, moi, je trouve que l'histoire lui a donné un peu raison, puisque deux années plus tard, Londres était attaqué depuis le ciel par des messieurs qui servaient les ordres d'un petit moustachu en colère.
C'est vrai.
C'est quand même impressionnant d'avoir prévu ça comme ça. C'est fabuleux.
C'est dingue.
Et bien justement, c'est vrai que Wells montre que l'espace est un lieu hostile qui peut susciter chez les fous beaucoup d'angoisse et l'inconnu engendre de la crainte. Voilà. Mais du coup, bon, je trouve que j'ai quand même un peu beaucoup parlé. Dis-moi, Lucas, est-ce que tu n'aurais pas une autre œuvre cinématographique dont tu voudrais nous parler ?
Eh bien, en fait, j'ai plusieurs... je me suis dit, autant donner une palette de films et quelques avis, mais très rapide, parce que, voilà, je me suis dit, j'ai vu l'espace, je l'ai vu. Et je me suis dit, bon, cinéma, espace, il y en a tellement des films que on peut pas aller trop dans une œuvre ou trop dans une autre. Il faut un petit peu s'éparpiller et donner une palette, voilà. Je voyais la chose comme ça. Donc, vous l'aurez compris, nombreux sont les films qui traitent de la conquête spatiale, de cet univers qui suscite notre curiosité, comme tu nous l'as dit également, Lucas, de cet univers qui nous paraît à la fois familier et inconnu. Il faut savoir quand même que la conquête spatiale dans le cinéma connaît une véritable impulsion durant la guerre froide. Le bras de fer entre les deux blocs américains et soviétiques entre en compétition pour savoir qui incarnera la première puissance spatiale. Ce combat est notamment abordé dans Les Figures de l'ombre de Théodore Melfi en 2017, qui traite dans un premier temps de la ségrégation aux États-Unis, tout en ayant un fond historique fort, celui de la conquête spatiale et l'affrontement entre les Russes et les Américains. Il narre finalement le destin extraordinaire des trois femmes scientifiques afro-américaines qui ont permis aux États-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale dans les années 60. Tu connais ce film, Lucas ?
Pas du tout.
Eh bien, je pense que ça pourrait être un film qui te plairait. Après, bon, je crois que je vais un petit peu abandonner, puisque à chaque fois que je te conseille un film, eh bien, tu ne le regardes pas.
Oui, c'est vrai. Mais je m'affranchis un peu de tes
conseils.
Oui,
tu t'affranchis bien.
Ouais, je m'affranchis, effectivement.
J'ai compris la référence,
oui,
Lucas.
Puisque je n'ai toujours pas regardé
C'est vrai
affranchis.
Que ça fait déjà plus d'un an que je t'avais conseillé le film
Oui.
et tu ne l'as toujours pas vu.
Effectivement.
Enfin bref, c'est très décevant, Lucas.
C'est vrai.
Mais bon. En effet, comme je le disais, donc on a une grosse impulsion du cinéma traitant de la conquête spatiale durant la guerre froide. On a du côté russe l'appel du ciel en 1959, ou encore avec le lancement de Spoutnik en 57, des films comme La planète des tempêtes en 62, ou encore Solaris en 72. Ces films sont bien évidemment un outil de propagande, hein, on va pas se le cacher, c'est dans les années, dans ces années-là. Par exemple, L'appel du ciel raconte le sauvetage de l'équipage d'une navette spatiale américaine par des cosmonautes russes.
Moi, je trouve que c'est beau parce que ça met en valeur le changement de politique qui s'est effectué dans les années 70 dans la conquête spatiale où c'était plus une compétition, c'était une collaboration, c'était l'amitié
L'amitié, oui.
entre Américains et Soviétiques. Mais il fallait quand même en profiter pour dire que bah, c'est les Soviétiques les meilleurs.
Ouais. On sait. Oui,
Non,
clairement,
mais je veux
je suis
dire,
d'accord.
dans ce film, le but, c'est quand même de dire, ouais, non, mais on est copains, mais...
On va dire qu'en fait, ils ont gagné le premier round, mais ils ont perdu le second, quoi.
Ouais, en fait, les Soviétiques ont un peu tout gagné, mais il faut leur reconnaître, ils ont été un peu premiers dans tous les domaines, sauf pour la Lune, évidemment.
Sauf pour la Lune.
Mais bon, voilà, il faut quand même qu'ils montrent aussi de leur côté que... Voilà... Petit sauvetage,
Un petit sauvetage, oui.
Voilà, c'est...
Effectivement, mais tu vois, ce sauvetage de l'équipe d'une navette spatiale américaine, moi, ça m'a fait rire. Je me suis dit, quand même, c'est quand même assez c'est épique, parce que les personnes qu'ils peuvent absolument pas, qu'ils détestent vraiment, c'est les Américains, et ils sauvent des Américains.
Et c'est beau,
Et ça, c'est beau.
c'est beau.
Ça, c'est beau, tu vois. C'est dépasser le côté ennemi, pour finalement se tourner vers l'avenir.
Et oui, c'est montré quand même que dans l'espace, eh bien, si l'espace est hostile, entre les hommes, nous sommes tous égaux et nous nous aimons les uns les autres.
C'est vrai.
C'est beau.
L'amour.
Ouais,
L'amour.
c'est... Non, c'est...
Et pour petite anecdote, Coppola d'ailleurs a racheté de nombreuses scènes de ce film pour réaliser le sien, Battle Beyond the Sun, en 63, il me semble. Et donc voilà, c'était la petite anecdote. Donc les Américains finalement se sont inspirés également de ces films russes. Et enfin, de nos jours, chaque décennie au moins, on a un voire plusieurs films en relation avec cet univers spatial qui sont réalisés. Je pense bien évidemment à L'étoffe des héros de Philip Kaufman en 83 ou Apollo 13 de Ron Howard en 95. Tous les deux étant des cultes du cinéma américain et ils sont comme les autres. Un petit peu lié à cet univers, on va dire, à cette propagande, j'ai envie de
C'est
te
vrai.
dire. C'est mettre un petit peu l'Amérique en avant, la Russie en avant. C'est cet intérêt-là qui est vraiment mis en avant.
Après, c'est vrai que il faut dire que à travers l'histoire, et même encore aujourd'hui, en fait, on en voit quand même bien les traces, c'est que la conquête spatiale pendant la guerre froide, en fait, a bien marqué le truc, parce que tu regardes la plupart des films qui portent sur le sujet, que ce soit des films sur l'histoire de la conquête spatiale ou même à propos de science-fiction un peu, ben, c'est toujours américain et russe, ou
Oui,
l'un ou l'autre,
c'est un bras de fer, hein.
et c'est un vrai bras de fer. C'est vrai que, bah, par exemple, je sais pas, je prends des films de science-fiction que je suis allé voir au cinéma, à chaque fois, bah, c'est toujours le gouvernement américain ou qui sauve le monde ou qui gère une station spatiale de l'autre côté de la galaxie. Enfin, bref, voilà,
Oui, après
c'est comme ça.
c'est l'univers hollywoodien, j'ai envie de te
Ouais,
dire,
voilà.
hein. C'est toujours voilà cette idée que les Américains, l'armée américaine également, regarde Top Gun,
Ouais,
on en
c'est
a
vrai.
parlé il y a quelques temps, mais Top Gun, c'est une propagande de l'armée américaine, la plus forte, la meilleure, la plus grande de tous les temps.
C'est vrai.
Voilà, c'est cette idée-là avant tout, j'ai envie de te dire. Après. Parmi tous ces films sur la conquête de l'espace, on retrouve Gravity, enfin la conquête de l'espace plutôt sur l'espace en général, j'ai envie de te dire. Gravity, bon, dans la médiocrité est lunaire, il faut se le dire, il faut pas avoir honte. Le
Non.
film est vraiment, il est pas bon. Et moi, ça me dépasse. Je me dis, il y a des films qui sont quand même très bons, comme Ad Astra, qui sont extrêmement mal notés et très mal vus par la critique. Et à côté, tu as un Gravity qui rafle tout, alors que le film n'est pas très bon. Je suis désolé, je me suis ennuyé.
C'est franchement, vrai que...
il fait de la concurrence au somnifère, quoi.
C'est vrai que c'est bravo la sympathie. Non, mais après c'est vrai que je me souviens, c'est les deux films sont sortis à peu près dans la même période. Mm-hmm. Et je me souviens que les critiques aussi avaient été un peu de cet avis, c'est que finalement Ad Astra c'est quand même génial, et puis en plus de ça, si je dis pas de bêtises, je crois que Ad Astra c'est avec Brad.
C'est avec Brad Pitt, ouais.
Oui, c'est avec Brad Pitt. Alors que l'autre c'est avec Georges Clooney.
Georges Clooney, Sandra Bullock.
Ouais, voilà.
C'est vraiment, c'est un petit peu. C'est en quelque sorte un huis clos. C'est très. Il y a beaucoup cette idée d'introspection. Le problème, c'est que Sandra Bullock, niveau introspection, faut pas quoi. Faut éviter.
Ah ouais.
Faut éviter. Donc, clairement.
Après, bon, c'est quand même. C'est George Clooney finalement, quand on y pense.
Oui.
Ouais, non, mais c'est parce que
c'est un clown.
Ouais, c'est un vrai clown. Hein,
c'est un clown. Il devrait plutôt faire des braquages, continuer à faire des braquages de son côté, et puis voilà.
Hein, ouais. Non, mais c'est ça. Mais après, voilà, bon, on s'est un peu dispersé dans la critique des acteurs. Hein. Vous savez, Radar, c'est la bonne humeur.
C'est hein. Exactement. Mais en fait, voilà, il faut aussi. Pouvoir parler de choses
que l'on aime,
il faut dire les choses.
Il faut dire la vérité.
Il faut dire ce que l'on pense.
Il faut dire la vérité. Et donc, l'avis est unanime. Quand vous avez un film de Brad Pitt d'un côté et l'autre avec George Clooney, eh bien, choisissez le bon. Ne Exactement. Vous trompez pas.
Oui, parce que Ad Astra est très bon.
Ouais.
Il est même excellent. Et j'ai envie de te dire, il n'y a pas qu'Ad Astra. Interstellar, bon, il y a deux teams. Il y a ceux qui disent que... Bon, il est quand même assez surcoté. D'autres qui disent que non, c'est un chef-d'œuvre absolument. Un grand, grand chef-d'œuvre. Bon, voilà, moi, je me place pas trop. Le film est vraiment bon, mais voilà, je vais pas aller plus loin que ça. Tu as Passenger aussi, parce que je sais que tu aimes les histoires d'amour, Lucas.
Ouais, surtout quand c'est dans l'espace.
Exactement, c'est ça. Et puis, l'idée du film est absolument affreuse quand même. Mais
oui, c'est vrai.
Tu te rappelles un petit peu de...
Si je dis pas de bêtises, en fait, c'est juste une colonie d'êtres humains qui est cryogénisée.
C'est ça.
Pour aller dans une planète qui est située à des années-lumière de la Terre.
Mm-hmm.
Et Chris Pratt se réveille, ça bug, hein, la cryogénie. Donc, il rencontre une femme qui, elle aussi...
Oui, il la réveille, du coup, ouais, volontairement.
Il la réveille. Mais en fait, mais il s'est
pris pour... Tu te rappelles pas qu'il la réveille volontairement?
Non, mais alors pas du tout. Moi, je pensais justement que c'était en mode... Oh, mais quel hasard!
Ah non, non, c'est pas... Ah non, ouais, c'est pas du tout...
Donc, il se prend vraiment pour... Ouais, ok, il se prend juste vraiment pour le prince charmant.
Bah, en fait, il l'a, un petit peu. C'est cette idée-là. Mais en fait, bon, voilà, c'est un petit peu cette réflexion autour de... On sait pas trop. Est-ce qu'il est coupable?
Ouais.
Bon, bien sûr qu'il est coupable, c'est horrible ce qu'il fait. Mais est-ce qu'on peut pas le comprendre? Possible.
Mais...
Après, on va dire, hein, je veux rien dire sur cette idée-là, mais il a quand même juste réveillé une femme, pas un homme. On va pas se le cacher.
Oui, mais parce que c'est vrai que.
Il cherchait pas un bon copain, quoi.
Ouais, non, mais c'est ça. Mais parce que moi, ce que je dirais quand même à ce sujet, quand même, c'est que. En fait, il a quand même tué quelqu'un, quand on y pense.
C'est vrai qu'il a tué quelqu'un.
Parce que, bon, la question aussi, moi, qui m'est arrivée en tête quand j'ai vu le film, c'est que c'était la question un peu du côté mortel de l'homme,
mm-hmm.
dans l'espace.
Ouais.
C'est que on est obligé d'effectuer des voyages qui vont durer plus de 4 à 5 ou 6 générations d'êtres humains, mais on a la capacité de cryogéniser et donc de court-circuiter un peu la nature.
Ouais, le temps.
Et le truc, c'est que le type se dit « Ah ben non, je vais la réveiller !» Et donc elle va devenir, entre guillemets, mortelle.
Ouais.
Et elle va mourir avant que nos petits-enfants ou que nos camarades, qui étaient nos camarades sur Terre, en fait, ne puissent fouler le sol d'une autre planète.
Oui. Après, bon, voilà, d'un côté, il y a ce côté-là qui est un petit peu... Parce que, comme tu disais, c'est un court-circuit qui fait que il est réveillé. Mais
oui.
Au final, s'il n'avait pas été deux, il n'aurait jamais pu réparer le vaisseau et donc des milliers de vies auraient été perdues, j'ai envie de te dire.
Ils sont courageux.
Donc, voilà, c'est ça. Bon, c'est un, ça finit bien toujours. Hein.
Oui, c'est vrai. Mais moi, j'attends quand même la suite.
Oui.
Ouais. Moi, je pense qu'il y a, il y a moyen de faire une suite.
Il y a moyen de faire une suite.
Avec
non,
ce
clairement.
Film. Ouais. Ouais, ouais. Non, non, mais pourquoi pas. Clairement, non, mais voilà.
Pourquoi pas. Bon, en vrai, moi, je m'arrêterai là, mais franchement, pourquoi pas.
On sait jamais. On sait jamais, voilà. Bon, c'est comme ça. Hein.
Tu as quelque chose à partager encore, Lucas, ou
alors, écoute, pour, parce que je pense qu'on va terminer là-dessus, non?
Oui, je pense que oui, ça peut être pas mal.
Voilà, moi je vais vous parler de d'un ouvrage. Alors si j'en parle là maintenant en dernier, bon c'est parce que c'est tout simplement une saga que je n'ai pas terminée. Il faut quand même le dire. Hein. Il faut être honnête avec nos auditeurs. Je n'ai pas terminé. J'ai lu le premier tome et qui m'a vraiment passionné. Mais alors passionné à un point, si tu savais, parce que on parlait justement de la rivalité entre les Russes et les Américains pendant la guerre froide.
Ouais.
Et bien, il y a un homme qui fait la jonction entre les deux. Et son prénom est Isaac.
Isaac Newton.
Évidemment. Évidemment, Isaac
Newton.
Tu vois, je
marque l'histoire, moi aussi.
Eh oui. Et plus c'est gros, et plus ça s'attire.
Oui, plus c'est gros, plus ça passe.
Eh oui, la gravité.
Exact. Mais, gravity.
Gravity. Mais bon, voilà, il s'appelle Isaac, mais de son nom... Asimov. Eh oui, et c'est un auteur...
Comme par hasard.
Comme de par hasard, mais comme de par hasard. Et c'est vrai que, eh bien, voilà, c'est un auteur d'origine russe, qui a été naturalisé américain, qui a fui évidemment vers les États-Unis, et c'est sur le sol américain qu'il a pu commencer à rédiger dans les années 40 son œuvre Fondation, qui est vraiment une œuvre pionnière, pionnière. Je dis ça depuis le début, en fait. Hein. Tu sais, j'ai commencé avec Jules Verne en disant que c'est un pionnier, mais Isaac Asimov, en fait, a créé un univers qui est, au travers de sa saga littéraire, qui a été vraiment très fécond en ce qui concerne la matière apportée à la science-fiction un peu plus tard, que ce soit dans les séries, dans les livres, dans le cinéma. Enfin, voilà, c'est vraiment Isaac Asimov qui est un bien modernisé, hein, puisqu'en plus de ça, il a aussi été l'auteur de la saga Robot. Voilà, c'est quand
Robot.
Même... Oui, tu sais, celui... c'est un ouvrage où, en fait, il commence à dire, bon, les gars, on est capable de créer de l'intelligence artificielle.
Oui.
Il faut qu'on s'en méfie.
D'accord.
Voilà.
Un sujet très vaste encore.
Hein. C'est encore un sujet très vaste qui mériterait toute une chronique, hein, évidemment.
Peut-être.
Mais on va quand même s'arrêter un peu à l'espace, hein, parce que sinon, la chronique durerait 2 heures.
Oui.
Mais... Bon voilà, Isaac Asimov, avec Fondation, eh ben, il révolutionne vraiment la science-fiction, et il prend comme toile de fond l'espace, et bah, quant à lui, il y dépose au premier plan un empire s'étendant sur une galaxie fort fort lointaine. Et dans un avenir fort fort lointain, je pense que ça te rappelle... La guerre des étoiles.
Oui.
Eh bien,
c'est vrai.
Bon, en fait, la galaxie, en réalité, bon, je m'étonne un peu, mais c'est justement la Voie lactée, en fait. Hein. Bon, il le précise pas, mais justement, je vais en venir à un point dans le premier tome qui m'a beaucoup choqué et qui m'a vraiment donné envie de continuer parce que j'ai trouvé ça fascinant. C'est que, eh bien, les hommes, dans son ouvrage, dans Fondation, on se situe quand même à plus de 13 ou 14 millénaires après la fuite de l'homme de la planète Terre.
D'accord, ouais.
Eh bien, le truc, c'est qu'ils s'interrogent sur leurs origines. Parce que dans ce livre, eh bien, ils se demandent, mais en fait, de quelle planète vient-on ?
C'est ça.
C'est que, en fait, eh bien, la Terre n'existe plus, elle est inhabitable à ce moment-là.
Comme dans Wall-E.
Et voilà, un peu comme dans Wall-E, effectivement. Mais justement, c'est que Fondation, c'est vraiment très, très avant-gardiste.
Mm-hmm.
Et la saga, en fait, eh bien, pour en revenir un peu à la référence à la guerre des étoiles, eh bien, justement, elle évoque les intrigues politiques, les luttes, les guerres qui amènent, en fait, au départ, une petite communauté d'encyclopédistes amenée sur une planète du nom de Terminus par un scientifique du nom de Harry Seldon. Eh bien, ces encyclopédistes sont amenés, en fait, à établir un nouvel empire au bout de 1000 ans, qui viendrait remplacer celui qui est en train de s'effondrer. Et l'espace, en fait, sert de terrain de jeu politique. Et en partant de cette minuscule planète aux confins de la galaxie, le lecteur suit les aventures des hommes qui se succèdent, des héros qui tentent de venir à bout de leurs adversaires pour amener l'ordre au sein de l'Empire. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je trouve que Fondation, c'est vraiment fascinant. Mm-hmm. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pensé à nos amis fans de La Guerre des Étoiles, hein, de lire cet ouvrage, parce c'est que sûr. C'est une saga qui est certes un peu longue, mais qui est, franchement, au niveau de l'écriture, c'est très simple.
Ça se lit facilement,
ça
quoi.
Se lit tellement ouais. facilement que je crois que je l'ai terminé en 2 soirées, même pas.
D'accord.
Le premier
Après,
tome.
Toi, tu es quand même Speedy Gonzalez, quoi. C'est...
Arriba, arriba.
Arriba, arriba.
Effectivement,
hein,
mais entonces, je dirais que, tout simplement, Fondation, c'est quand même un peu la base de la science-fiction, et que pour ceux qui s'y intéressent, que ce soit au cinéma, dans la littérature, il faut peut-être faire un petit détour, parce que ça vaut largement le coup, et de toute façon, c'est vraiment ce qui a inspiré les œuvres de science-fiction depuis les années 40 jusqu'à aujourd'hui. Voilà.
Super. Mais franchement, tu as suscité ma curiosité, tu as titillé ma curiosité, j'ai envie de te dire.
Eh bien,
ça me donne envie de le lire.
Tant mieux. Il faudra que tu le lises, et moi, en échange, eh bien, je regarderai Ad Astra.
Tu regarderas
Ad
Astra.
Mais je m'affranchirai de regarder Les Affranchis. Voilà.
Ouais.
Voilà.
Mais après, voilà, ouais, comme tu es un fan, t'aimes bien tout ce qui est espace, je pense que tu auras plus de facilité à regarder des œuvres.
Mais...
Sur ce sujet-là, plutôt que...
Pour en venir juste à Fondation, c'est que même pour ceux qui ne sont pas forcément passionnés par le sujet de l'espace,
oui.
c'est très abordable.
L'histoire est vraiment sympa.
Ouais, ça ne rentre pas dans les détails, en mode, oui, voilà, le vaisseau spatial, un tel, non, c'est très simple, en fait. C'est
D'accord.
vraiment surtout basé autour de l'intrigue politique, des luttes entre factions, entre planètes, entre royaumes, entre empires. C'est super intéressant, donc voilà, c'est très abordable.
Eh bien, nickel. Et je finirai par dire que il faudrait peut-être mettre une petite musique.
Mais forcément, parce qu'en plus de ça, ça fait, je crois, bien 40 minutes qu'on parle.
Oui.
Nos auditeurs sont,
c'est vrai,
ont la tête lourde de renseignements, parce qu'on les connaît. Ils vont se dire, mais oui. Mais je vais aller lire tous les livres qu'ils m'ont conseillé.
Ça,
je vais aller regarder tous les films.
Voilà.
C'est fou.
Voilà.
C'est fou. Ils vont se dire, mais j'ai beaucoup trop de travail jusqu'à la prochaine émission de Radar.
Et oui.
Et donc, c'est pour ça, moi, je t'invite, Lucas, à nous proposer une petite musique.
Bien, en fait, j'ai envie de te dire, j'ai 2 musiques. Mais il faut en choisir une, hein, parce que, voilà, c'est la fatalité. j'ai donc soit... Rocketman, de qui?
De John.
Elton John.
Eh oui.
Voilà. Ou bien Space Oddity de...
Bowie.
David
Bowie.
Voilà.
Eh oui.
Super. Mais je te laisse choisir entre
Alors,
les deux.
Moi, franchement, c'est 2 artistes que j'adore. En
moi
plus
aussi.
De Freddie Mercury. C'est vraiment... c'est vraiment...
Ah, ils font le trio, c'est sûr. Hein.
Ah oui, ils font le trio. Mais alors, vraiment, mais un truc de dingue. Et... moi, j'adore Elton John, Rocketman, parce que ça m'évoque quand même beaucoup de souvenirs.
D'accord.
Je l'ai découverte pendant un cours d'anglais en seconde, et on devait la chanter.
D'accord.
Et c'est vraiment une musique que j'aime beaucoup et que je chante encore très souvent quand je suis tout seul chez moi ou...
Voilà, dans la douche.
Ou dans la douche. Et franchement,
voilà.
J'adore
la
Rocketman.
Fameuse.
Ouais, la fameuse.
D'accord. Eh bien, avant de laisser nos auditeurs... avec Rocketman, finalement. Je te propose de conclure. Hein,
oui, eh ben, écoute...
Quelques mots.
Voilà, l'espace, c'est un sujet qui a été traité dans la littérature, dans le cinéma, et même dans plein d'autres œuvres, dans plein d'autres domaines. Je veux dire, l'espace, même l'architecture, le design, tout. Enfin,
la poésie.
Tout, la poésie, mais l'art a vraiment saisi l'espace depuis très longtemps.
C'est vrai.
Au point, voilà, où maintenant, eh ben, c'est un sujet d'avenir, et je pense que on n'en a pas fini avec tout ce qui tourne autour du sujet, et peut-être que dans plusieurs millénaires, eh bien, Radar devra
se faire dans l'espace
et retraiter encore une fois du sujet. On
c'est
ne sait
ça.
Pas. Voilà.
Le retour peut-être sur la Terre.
Oui, peut-être le retour sur la Terre, voilà, c'est comme ça. Bon, voilà.
Eh bien, on vous laisse avec Rocketman. Vous pouvez nous retrouver sur le site Radio Campus Pau. Donc, nous écouter dessus. Oui, tu as quelque chose à dire, oui. Lucas, je te sens excité.
Oui, eh bien, parce que, justement, je crois que lors de la dernière émission, j'avais évoqué une petite surprise pour nos auditeurs. Eh bien, Lucas, je te laisse en parler.
Tu veux parler de l'application qui vient de sortir sur
Android.
Sur Android.
Et bientôt
et qui doit sortir sur iPhone.
Eh oui.
C'est ça.
C'est formidable.
Ok.
Eh oui.
Eh bien, l'application également, qu'il faut que je télécharge incessamment sous peu. Hein. et donc, vous pouvez encore une fois nous écouter sur Radio Campus Pau 98.8. Donc voilà. Je te laisse conclure, Lucas.
Eh bien, tout simplement, voilà, juste pour en revenir vite fait sur l'application, vous pourrez nous avoir sur votre téléphone à portée de main, rapidement, quand vous allez en cours, quand vous allez au travail, quand vous êtes en bus, dans les transports en commun, bref, vous nous aurez toujours avec vous.
Exactement, voilà. Et on pourra vous observer.
Exactement. Et du coup, voilà, bon, eh bien... Lucas, je te dis à la prochaine. Je te souhaite à toi et à nos auditeurs une très bonne journée, une très bonne soirée.
À bientôt. Et une très bonne nuit.
Et voilà, une très bonne nuit, hein. Voilà, évidemment. Parce qu'on sait tous très bien que vous écoutez Radar pour vous endormir.
Voilà.
Allez.
Rocketman.
Ciao.
Nine AM, and I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space. On such a timeless flight, and I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. No one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job. And I think it's gonna be a long time.